soir de rock. Le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 7 novembre 2025. L'indice de circularité de l'économie est à la baisse au Québec. La mise à jour du premier calcul, publiée en 2021, démontre qu'au lieu de progresser, la circularité régresse. L'indice était alors de 3,5%. Selon les dernières données disponibles révélées par Recycle Québec, il serait maintenant de 2,5%. Cette nouvelle mesure suit la tendance générale, alors que l'indice de circularité mondiale a également diminué. Pour que l'économie soit plus circulaire, il faudrait repenser nos matières de consommer et optimiser l'utilisation des matières et des produits. Le regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, le REPAC, fête ce soir son 45e anniversaire. L'événement, ouvert à toutes et à tous, se déroule à partir de 17h au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, au 870 avenue de Salaberry. Pour le REPAC, cette 45e année aura été marquée par une conjoncture politique, environnementale et sociale profondément inquiétante, avec un filet social qui s'effrite, des discours de droite de plus en plus décomplexés et un financement des groupes communautaires qui se fait famélique. Le 51e cocktail bénéfice du Centre du Rocher, auquel participaient quelques 300 participantes et participants, membres de la communauté, partenaires et donateurs, a établi un nouveau record de dons, avec plus de 237 000 $ recueillis. Cette somme servira à soutenir les projets communautaires du Centre, qui pourront être maintenus ou même bonifiés, ce qui contribuera au mieux-être et à la qualité de vie des enfants et des familles moins favorisées de la basse ville. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, la Casa Latino-Américaine, un organisme d'action sociale et culturelle qui œuvre dans la région à l'intégration harmonieuse de la communauté latino-américaine à la société québécoise, invite la population à la Peña Latino-Québécoise de l'Amitié 2025 qui aura lieu demain à compter de 17h30. Musique, danse, culture, nourriture traditionnelle seront de la fête. L'événement a lieu au Centre Édouard Lavergne, au 390 rue Arago-Ouest. Et dans sa dernière infolettre, la Ville de Québec nous apprend que le 8 novembre marque le début des marchés de Noël artisanaux. Demain et dimanche auront lieu le marché de Noël de Loretteville à l'édifice Denis Giguère, ainsi que le salon du cadeau du Cercle des fermières Saint-Raphaël au centre communautaire Michel Labadie. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Philosophe est en avance sur son temps jusque dans sa vie matérielle. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se vêt, ne se chauffe comme ses contemporains. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il lui faut pour couvrir ses besoins vitaux, un autre choix s'ouvre à lui que celui qui consiste à obtenir des choses superflues. Ce choix, c'est de s'aventurer maintenant dans la vie, car c'est de ce moment-là que commence sa vacance du labeur le plus humble. Le sol, semble-t-il, convient à la semence car elle a poussé ses radicelles vers le bas et peut désormais élancer ses pousses vers tout haut en toute confiance. Pourquoi l'homme s'est-il si fermement enraciné dans la terre, si ce n'est pour s'élever en proportion égale vers les cieux? Car les plantes les plus nobles doivent l'estime dont elles jouissent aux fruits qu'elles portent ultimement dans les airs, à la lumière, loin du sol, et elles ne sont pas traitées comme les végétaux comestibles les plus modestes que l'on cultive, même lorsqu'ils sont bisannuels, que jusqu'ils aient achevé la croissance de leurs racines et que l'on taille souvent en haut pour hâter cette croissance, de sorte que la plupart des gens ne savent même pas à quoi ils ressemblent en leur saison des fleurs.
Je prends une prière à la lumière. Bonjour.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on a un invité qu'on a déjà eu à l'émission au printemps, Rajul Mouhamadou, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'accidentité », dont on a parlé justement à l'émission au mois de mars. Puis aujourd'hui, on va poursuivre parce que c'est, en fait, c'est le thème de l'émission cette année, l'identité. Puis Rajul fait une recherche au doctorat sur qui sommes-nous, l'identité, qui c'est qui les humains. Puis c'est exactement le thème de l'émission cette année. Donc, on a un invité qui est très pertinent pour En toute simplicité qu'on va avoir aujourd'hui. Avant ça, avant de parler avec Rajul, juste quelques lectures, quelques annonces. Alors, pour ceux qui s'intéressent, on aura un café philo au café Motas jeudi prochain à 19h. Alors, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Ensuite, le gros événement de la semaine qui intéresse beaucoup notre émission, c'est la COP 30 qui va avoir lieu au Brésil cette semaine. Alors, il y a beaucoup d'articles écrits là-dessus aujourd'hui. Avant ça, j'ai un article que j'ai retenu ici de mardi dernier, dans Le Devoir de mardi, qui fait partie des... Curieusement, actuellement, là, les bonnes nouvelles au niveau du climat, c'est l'endroit où on se disait avant que ça allait mal, mais c'est la Chine. La Chine est devenue les champions de la réduction des émissions. Et là, on dit, c'est un texte dans Le Devoir de mardi dernier, l'envolée de l'énergie solaire en graphique. C'est un assez gros texte. On dit la planète Terre connaît actuellement une éruption solaire. De la Chine à la Lituanie, en passant par l'Espagne et le Pakistan, le développement des panneaux photovoltaïques s'accélère. Vers 2005, on installait dans le monde 1 gigawatt de puissance solaire, l'équivalent d'une centrale hydroélectrique de taille moyenne, en une année. En 2010, on y parvenait en un mois. En 2015, en une semaine. En 2023, en une journée. Et en 2025, en 12 heures. Si ce taux de croissance exponentielle se maintient, nous vivrons bientôt dans un monde très différent, a écrit en juillet le journaliste et militant écologiste Bill McGibbon dans le New Yorker. C'est en Chine que plus de 60% des panneaux photovoltaïques ont été installés dans le monde en 2024. C'est aussi ce pays qui fabrique 85% des 10 panneaux. L'an dernier, la Chine totalisait 1200 MW de puissance solaire en éolien, atteignant avec 6 ans d'avance un objectif qu'elle s'était fixé en 2020. Elle veut maintenant doubler la mise d'ici 2035 et les analystes n'ont aucun doute qu'elle y arrivera. La transition vers une économie verte et sobre en carbone est la tendance de notre époque, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors du sommet des Nations Unies en septembre. Alors, je vous recommande cet article-là qui est intéressant. Dans le Devoir de mardi, il y a plein de graphiques, plein de données sur le développement fulgurant là, de l'éolien. Ensuite, comme je vous disais, bien, le thème du jour, là, c'est la COP à Belém, au Brésil. Et dans le Devoir d'aujourd'hui, il y a plusieurs articles sur le sujet. On commence avec un article sur le climat au Québec, au Canada, c'est-à-dire un pays déphasé en matière de climat. En dépit de l'urgence de la question, le premier budget du gouvernement Carney a accordé peu de place aux enjeux environnementaux. Le budget est comme totalement ou presque uniquement orienté en fonction des nouveaux tarifs, puis qui sont les tarifs douaniers avec les États-Unis. Puis là, on cite le ministre Champagne. Une nouvelle ère de perturbation exige une nouvelle ère de leadership et de nouvelles bases économiques fondées sur la résilience, la souveraineté et l'innovation, a dit le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne. Quand il parlait de changement générationnel, le ministre avait surtout en tête le choc infligé par les tarifs douaniers à tout va de Donald Trump. Il était également question de la remise en cause par le président américain, à l'instar d'autres grandes puissances étrangères, de la règle de droit et de la logique de coopération sur la scène internationale. Il aurait toutefois pu évoquer la crise existentielle provoquée par le réchauffement climatique et l'extraordinaire défi que cela pose en matière de transition économique et sociale. Fait que c'est ça, au Canada, en Amérique, tout d'un coup, la cause climatique a pris le... c'est plus en première position, c'est l'économie. Or, c'est à peine si on a parlé du sujet mardi. On en a bien profité pour dévoiler les grandes lignes d'une future stratégie de compétitivité climatique, mais celle-ci n'occupe pas plus d'une douzaine de pages d'un document budgétaire qui en compte 500. C'est ça, du côté canadien, là, on ne progresse pas beaucoup. Il y a un autre texte dans le Devoir intéressant sur le COP, c'est-à-dire COP Carbone, qui Pauline Robert, l'autrice et directrice générale de COP Carbone, puis on avait eu Jean Audet, qui est aussi directeur de COP Carbone en émission l'année dernière, puis ces gens-là vont à chaque COP, alors il va venir, je vais l'inviter, en tout cas on va essayer de l'inviter pour qu'il nous fasse un compte-rendu de la COP 30 qui se passe actuellement. Puis là, dans le texte, elle dit non seulement nous avons besoin des COP, mais nous avons aussi besoin d'y être en personne. Étonnamment, après 30 ans, il faut visiblement encore en débattre. On pose encore la question de la pertinence de ces grands événements diplomatiques. Dans les derniers jours, on a beaucoup parlé des 30 ans du référendum de 1995, mais cette année, ce sont aussi les 30 ans de la première COP qui s'est tenue à Berlin. Vous voulez un projet de société? En voici un grand. L'action et la diplomatie climatique à l'œuvre concrètement, année après année, à chaque conférence annuelle des Nations unies sur le climat. Oui, parfois, les États-Unis se désengagent et parfois, oui, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec a trop à faire pour y participer. Parfois, les grands groupes de la lutte contre les changements climatiques choisissent de passer leur tour, mais dans son mouvement global, ce système permet les plus grandes avancées en matière de climat. Le mouvement réel, il sert à faire bouger l'aiguille de la norme sociale. Imaginez le travail colossal que représente la fin des énergies fossiles. Imaginez comment vous pourriez convaincre les nations les plus riches et les polluantes de soutenir les nations les plus vulnérables qui subissent les conséquences des changements climatiques. Imaginez accélérer le déploiement d'avancées technologiques et naturelles dans le monde entier. Alors, la COP, c'est un événement qui est important, même si ça semble mis au second plan actuellement. Et c'est des événements importants à suivre et on va le suivre ici. On va probablement en reparler dans les semaines qui viennent. On va avoir quelques émissions sur le sujet. Et un autre article dans le Devoir, toujours dans le Devoir d'aujourd'hui, l'attente des cibles climatiques pourrait prendre du retard, admet Ottawa. Le gouvernement Carney soutient la production d'énergie fossile tout en promettant de respecter l'accord de Paris. Même s'il promet de respecter les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, le gouvernement canadien admet que les prochaines cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient ne pas être atteintes selon ce qui était prévu. Ces objectifs sont pourtant considérés comme des étapes charnières alors que le manque d'ambition climatique mondiale laisse présager le pire. En vertu de la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carbone, de carboneutralité, le gouvernement fédéral s'est engagé l'an dernier à réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre de 45 à 50 % d'ici 2035 par rapport au niveau de 2005. Cette promesse s'inscrit d'ailleurs dans les dispositions que doivent respecter les pays signataires de l'accord de Paris qui ont pris l'engagement de mettre à jour tous les 5 ans leurs cibles climatiques. Les pays doivent ainsi en faire davantage afin de se rapprocher de l'objectif de limiter le réchauffement planétaire. Alors, c'est le gros dossier à suivre ces jours-ci. On va en reparler. Alors, on prend une petite pause musicale et au retour, on parle d'identité avec notre invité Rajul. Thank you.
la fin commence. Au gré de quelques confidences, tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. La morale brille par son absence, les dictats sont sans conséquence. Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Les désirs ne sont plus souffrance, ils sont maintenus à distance. Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Si j'ai le culte de la performance, pour qui, pourquoi se faire violence? Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. On croit choisir son existence, c'est elle qui impose sa présence. Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Choisir son existence, c'est elle qui impose sa présence. Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Au présent.
Alors, c'était Jean-Marc Aurel, « Quand le futur se conjugue au présent » de son album « Je cours après la lune ». En début d'émission, on avait Richard Séguin de l'album « Retour à Walden ». C'était la pièce « Le chemin de fer souterrain ». Alors, bonjour à Jules.
Bonjour Jacques.
Bienvenue à notre émission.
Tout le plaisir pour moi.
Comme je disais, tu es un invité très pertinent pour nous cette année parce que c'est le cœur de notre réflexion qu'on a, c'est le qui sommes-nous, notre identité. Puis là, tu as creusé ça beaucoup.
Oui.
Dans le cadre de ta recherche doctorale, tu as écrit aussi quelques livres là-dessus même.
Oui.
Donc,
sur l'identité humaine. Mon travail au doctorat consiste à élargir un peu plus la réflexion vers ce qu'il y a en commun entre ce qui n'est pas humain. Comment est-ce que nous nous définissons en tant qu'humains? Parce que définir l'être humain, ça commence d'abord par un geste qui est un geste d'exclusion. Parce que se définir, pour dire nous sommes nous, il faut désigner un « e ». Et c'est comment est-ce qu'on construit ces « e » sur quels critères par opposition à « nous ». C'est le but de ma réflexion. Et ces temps-ci, c'est eux, ce sont les animaux, non humains sur lesquels je réfléchis, mais également les robots, l'intelligence artificielle, les végétaux, les plantes, les rivières. Comment est-ce qu'en tant qu'humain, on se définit et à l'exclusion de ces entités-là, en les considérant comme des choses, en les réifiant, comme on peut utiliser un mot philosophique.
D'ailleurs, on a beaucoup parlé aussi à l'émission de l'éthique animale. On a eu... Stéphane Groslo qui est végétalien, puis qui est, bon, il y a toute une réflexion dans le mouvement végétalien sur l'éthique animale. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé. On va aussi parler, quand tu parles des plantes, la permaculture, une nouvelle façon de voir la nature au lieu de la voir comme qu'on doit la dominer. L'agriculture, c'est beaucoup un geste de domination de la nature. Et la permaculture, on est plutôt dans une attitude de dialogue avec la nature. Alors, ça, notre façon d'aborder la nature évolue, mais aussi notre identité, c'est important parce que comment on se perçoit, ça va déterminer comment on va se comporter. Là. Et tantôt, on en discutait, ce sujet-là n'est pas nouveau. Là. Les Grecs ont beaucoup réfléchi sur qui sommes-nous.
Oui. Je dirais que chez les Grecs, la question se pose très vite. Quand on va lire la mythologie et tout, ou quand on lit la philosophie d'ailleurs, on va souvent faire référence à Aristote, qui va définir l'homme comme le zoon politikon, l'animal politique, l'animal rationalé, l'animal doté de raison. Ça va être le premier critère hein, pour exclure ce qui n'est pas humain. Et quand on se souvient très bien de la philosophie grecque, la préoccupation majeure des philosophes grecs, c'est de penser l'homme comme mortel. Et l'homme est immortel face aux immortels que sont les dieux, que sont Zeus. Et dans la tradition philosophique et en même temps théologique et mythologique grecque, on va considérer que ce sont les dieux qui ont créé les humains. Prométhée et puis son frère Épiméthée ont eu la charge de créer les mortels à la demande de Zeus. Et Épiméthée a pressé son frère Prométhée, a dit « Ah, Prométhée, laisse-moi faire cette fois-ci, c'est moi qui vais m'en occuper. » Prométhée finit par céder, il dit « Ok, vas-y Épiméthée, crée les mortels non humains, je m'occuperai tantôt de créer les mortels humains. » Et Épiméthée va créer les animaux, va leur donner des attributs. Il y en a qui sont capables de voler, il y en a qui sont capables de courir très vite. Il y en a qui sont capables de nager dès la naissance, qui n'ont même pas besoin d'apprentissage particulier. Donc c'est comme dans le reste du règne animal, en général, les mortels vont avoir des attributs naturels, des fonctions qui sont comme programmées. Vous savez, quand un bébé... sort de son cocon chez une poule, sort de l'œuf, un poussin est capable de marcher. Dans les instants qui vont suivre, ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand les tortues sortent de leur écaille, ils font exploser leur écaille, ils vont à la mer, ils savent déjà nager. Du coup, Prométhée, très généreux vis-à-vis des animaux, leur donne tous les attributs, la force, la capacité de voler, la puissance, l'endurance, et ainsi de suite. Quand vient le tour de créer les mortels humains, les humains, Prométhée arrive et son frère a distribué tous les attributs. Et là, il se retrouve en créé l'homme comme cette créature toute fragile. Le bébé humain, ça lui prend 10, 20, 30 ans. Si on ne s'occupe pas de lui à naissance, il ne survit pas. Alors que beaucoup d'espèces survivent très bien. Et des philosophes comme Sartre, dans l'existentialisme, ont considéré que, en fait, c'est cette liberté qui a été donnée à l'homme. Parce que nous, on n'a pas de programme d'avance, on n'est pas programmé d'avance. Et ce qui va amener toute la philosophie grecque, c'est qu'il y a une cristallisation chez les stoïciens qui vont insister sur le fait qu'il y a une sorte de communauté morale qui va exister entre les hommes, les humains et les dieux en raison du logos. Ça va être le principal critère, c'est-à-dire cette capacité à raisonner, à créer, à parler aussi. Okay? C'est une capacité qui est commune entre les humains et les dieux grecs, pour le coup, et exclusive. Donc l'animal, le silence de l'animal, l'animal qui ne parle pas, l'animal qui n'est pas capable de raisonner, ne fait pas partie de cette communauté-là. Et ça va rester comme ça pendant très longtemps, dans la philosophie, et il y a très peu de courants philosophiques qui vont affirmer une égalité morale ou éthique entre l'humain et l'animal, un peu chez Plutarque, mais ça ne va pas plus loin que ça, c'est-à-dire se reconnaît un peu avoir des capacités et des qualités qui ressemblent à celles des humains, ça ne fait jamais d'eux des humains. Tu sais, c'est comme la formule de Descartes. Quand Descartes dit « les humains doivent se rendre comme si ». Ok, les animaux ont des caractéristiques qui sont comme si, mais c'est pas comme, tu vois. Et ça devient un critère d'exclusion qui va se maintenir. Tout ça va se, pour accélérer très vite, là, on arrive au moment justement de Descartes, pour le coup. Descartes, c'est l'homme qui va consolider tout ça et donner le programme de notre modernité, c'est-à-dire que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc, ça reconduit un peu la tradition aussi... chrétienne, parce que dans la philosophie de Descartes, il y a cet arrachement, il crée un certain anthropocentrisme, un certain humanisme, pas arrachement à une vision qui était théocentrique, la vision chrétienne, parce que Descartes vient du Moyen-Âge, le Moyen-Âge était chrétien déjà. Et dans le Moyen-Âge chrétien, on va considérer que l'homme a créé, Dieu a créé l'ensemble du vivant et a donné à l'homme, à Adam, le droit de nommer les autres. Donc Adam a une forme de supériorité sur les animaux, sur les végétaux, et c'est lui qui est comme, Descartes va dire, qui sera maître et possesseur de ce monde-là. Donc il sera un peu comme Dieu. Ça ressemble étrangement à la tradition philosophique grecque, c'est-à-dire que c'est toujours une sorte de dialogue entre l'humain et Dieu, et le reste est comme des éléments de décor. Et ça, c'est en train de changer, vous mentionnez tout à l'heure tout ce qui se passe comme réflexion en éthique animale, en éthique environnementale, en éthique de l'intelligence artificielle et des robots, des choses comme ça, qui vont réfléchir à des arguments qui seraient comme en faveur de la reconnaissance, d'une sorte d'égalitarisme à établir entre l'humain et les animaux non humains, pour recentrer le raisonnement sur seulement les animaux. Il y en a qui ont considéré que les capacités, cette capacité justement de posséder le logos, ça va être plus affiné comme le développement cognitif de l'être humain, le place à une situation de supériorité, mais en même temps, beaucoup vont considérer que, notamment des gens, un penseur comme Peter Singer, dans La libération animale, vont considérer que, il y a certains animaux comme les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les éléphants ou les dauphins qui peuvent se prévaloir de capacités qui soient proches des humains. Donc si on complexifie en philosophie, en éthique animale, on peut introduire ce qu'on appelle le problème de Peter Singer, parce que ça part de l'idée que tous les humains sont supérieurs à tous les animaux. Cette idée-là est difficile à défendre philosophiquement parlant, parce que chez les humains, il va y avoir des enfants. Le fœtus n'a pas les capacités supérieures, par exemple, à un éléphant ou à un dauphin. Et qu'est-ce qui justifie que le dauphin soit inférieur, qu'on considère comme inférieur ? Est-ce une personne âgée qui a perdu ses capacités mentales très gravement altérées ? Est-ce que ces personnes-là sont toujours supérieures à des animaux pour qu'on puisse les considérer comme éthiquement ou moralement supérieures ? Donc, c'est des questions qui sont débattues très âprement aujourd'hui. Et en plus, quand tu prends aussi ce qu'on appelle les animaux, c'est un mot quand même assez vague. Une fourmi, c'est pas un éléphant. Et un éléphant, c'est pas un oiseau. Donc, ils ont des caractéristiques différentes. On ne peut pas dire que tous les humains, voilà, s'il faut donner un résumé de tout ce que je viens de dire, tous les humains aujourd'hui sont supérieurs à tous les animaux. Philosophiquement, ça ne peut pas se tenir. Si, peu importe le critère qu'on fixe, si le critère du développement cognitif, ça ne fonctionnerait pas.
On a eu des exceptions. Par contre, il y a eu Montaigne qui disait pourquoi on serait supérieur aux animaux. Là, hein? Et puis, il y a eu Saint-François d'Assise qui... étrangement, Saint-François d'Assise qui disait, ça ressemble beaucoup à ce que les Premières Nations, comment ils se... Il disait mes frères, les animaux, les oiseaux. Il y avait un lien comme les peuples qu'on appelle primitifs, entre guillemets, ont un lien beaucoup plus fusionnel avec la nature, avec la vie. Et il n'y a pas cette arrogance-là ou cette supériorité-là.
Si vous voulez, c'est vraiment une question d'intérêt, parce que moi, ça me fait penser beaucoup au statut de l'animal et au procès que les animaux ont subi au Moyen-Âge, parce qu'on était là dans une période très chrétienne. Vous faisiez référence à Saint-François d'Assise qui rêvait un jour, qui se voyait, qui a fait un rêve d'une poule noire qui couvait des poussins et dit « la poule noire, c'est moi ». Ça me fait penser par exemple à Blaise Pascal, justement. Pascal qui disait que l'homme est un roseau pensant, par exemple. C'est à cette époque-là, c'était pas très, très figé comme ça a pu l'être dans la première modernité par après. Même dans la première modernité, il y a des choses à en dire, là, parce qu'au Moyen-Âge, par exemple, on va considérer que les animaux étaient pénalement responsables de crimes qu'ils commettaient. En France, par exemple, dans toute l'Europe, on a recensé plus de 200 procès d'animaux durant le Moyen-Âge. Et en France, particulièrement, dans la région de Falaise, il y a eu des procès d'animaux, des procès de cochons, par exemple. Un cochon qui a été accusé d'avoir causé la mort d'un enfant, qui s'est retrouvé devant un panel de juristes réunis et qui la signe devant ce tribunal. On le fait tenir devant un escabeau des accusés, là, et puis on organise son procès devant son maître et devant la communauté. Et sentence est prononcée, peine de mort, évidemment, parce que le cochon est accusé d'avoir ôté la vie d'un bébé. Et on décide que tous les animaux de la basse-cour soient conviés pour être témoin de l'exécution de ce cochon fautif. Et à partir de là, tout le monde est sommé d'amener son cochon, sa poule, tout ce qu'il a comme petit animal à la maison pour assister au supplice et pour que ça leur serve de leçon, pour qu'ils ne fassent pas la même chose. Donc à partir de là, le bourreau est convié sur la place, l'accusé, le cochon, le condamné pour le coup, est traîné, et des supplices lui sont infligés. Bon, on lui inflige des supplices aux places exactes. On l'accuse d'avoir agressé le bébé, et à partir de là, on finit par le mettre à mort. Donc, c'est quand même très particulier, ça ressemble étrangement à ce que vous disiez tout à l'heure pour ce qui concerne les autochtones, qui ont un rapport très différent, parce que si on rentre dans des visions du monde qui sont des visions animistes, cette idée que l'humain serait supérieur ne fonctionne pas là-bas. Ça, c'est la vision naturaliste qui va poser la séparation entre la nature. Ça, c'est le travaux de l'anthropologue d'Escola, Philippe d'Escola, qui le montre très bien. La séparation entre humain et non-humain, la séparation entre nature et culture. Ça, ce sont des distinctions qui ont été solidifiées par la modernité.
On va prendre une pause musicale, puis au retour, on va aborder ce sujet-là, c'est comment les philosophes comprennent cette distinction-là.
D'accord.
Pièce de Camille Saint-Saëns, c'est tiré du... Le titre de la pièce, c'est l'Aquarium, c'est tiré du Carnaval des animaux, puis interprété au piano à quatre mains, Ludmilla Guillemot et Jean-Noël Dubois. Alors, Jules, là, on va revenir à la philosophie. Comment c'est un dilemme philosophique hein, de déterminer c'est quoi la séparation entre les deux. On est interpellé par ça aujourd'hui même. Tu nous parlais tantôt même des robots. Alors, comment est-ce que la philosophie aborde tout ça?
Bah, historiquement, la question de définir c'est quoi l'humain a été un très 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 long parcours à date. Je pense qu'il faut attendre la Déclaration universelle des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, après Auschwitz, hein, après l'horreur du racisme, du nazisme et du totalitarisme, de l'antisémitisme poussé à son extrémité, la fin du colonialisme, pour qu'on finisse par dire que toute l'espèce, nous sommes une espèce unique et que nous formons une seule humanité. Et ça n'a pas été très facile à construire parce que dès la Renaissance, l'humanisme va commencer par postuler que ce qui nous accorde la qualité de personne morale, de sujet moral, ce qui nous donne une valeur éthique intrinsèque, c'est la possession de la rationalité. Et à partir de là, on va dire non, les femmes ne sont pas rationnelles. Les femmes sont proches de la nature. Les autochtones des Amériques, les aborigènes d'Australie, ils sont trop proches de la nature pour être des êtres rationnels. On ne parle même pas des esclaves africains, des esclavagisés africains, qui eux sont considérés comme des bêtes de somme. Donc cet enjeu de définir qui est dedans, qui est dehors, et selon quels critères, ça a été l'histoire de notre humanité, au fond. Et aujourd'hui, on en arrive à un moment où on réévalue les critères. En général, on va retenir le critère cognitif ou le critère phylogénétique, c'est-à-dire le fait qu'on appartienne à une espèce donnée, l'espèce humaine, donc à l'exclusion des autres humanoïdes, que sont les grands singes, les orang-outans que je mentionnais, parce que si on regarde d'un point de vue génétique, les écarts génétiques entre nous et les singes sont très 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 faibles, donc c'est difficile de les exclure. Hein.
Puis on a eu d'autres homos comme les Néandertal, plusieurs.
Donc, aujourd'hui, il va se cristalliser dans l'éthique, pour parler, faire référence à ton émission, à l'éthique environnementale. Alors, on va développer des conceptions qui sont par exemple ce qu'on va appeler le pathocentrisme, qui va dire que est digne de considération morale tout être naturel qui est capable d'une forme de sensibilité qui se manifeste à la souffrance, vis-à-vis de la souffrance ou la non-souffrance. Donc si une entité est capable de souffrir, il faudrait la considérer comme moralement significative. D'autres vont être dans le biocentrisme. Les biocentristes vont considérer qu'un être moral est signifiant à partir du moment où il est vivant, point. Le critère, là-bas, c'est vivant. Et l'écocentrisme qui va accorder le respect à la valeur morale à toutes les entités naturelles, toutes, indépendamment des caractéristiques particulières. Donc, vous voyez, eux vont par exemple insister que l'homme n'est qu'une partie d'un tout. Et le tout, cette partie-là, ne peut pas être considérée comme... Aucun critère de cette partie ne peut être considéré comme exclusif du tout. Parce que lui-même, il fait partie d'un tout, déjà. Vous voyez ? Et donc, ce qui va amener des éthiques, comme je disais tout à l'heure avec Descartes, il y a eu un premier arrachement vis-à-vis de la conception théocentrique du Moyen-Âge, qui prévalait au Moyen-Âge, l'idée que l'homme est à l'image de Dieu, ce genre de choses. Donc, l'idéal, c'était ça. Chez les Grecs aussi, comme je disais, chez les Stoïciens, le mortel et l'immortel, donc le mortel devait chercher à s'immortaliser. Les Grecs se battaient tous pour devenir des dieux. Tu prends Héraclès, Hercule chez nous en français, c'est des gens qui veulent tous accéder aux Champs-Élysées, être en compagnie des dieux. Et d'ailleurs, les dieux et les humains, chez les Grecs, se réunissaient et faisaient des banquets. Et d'ailleurs, ce qui lui a valu à notre cher ami Prométhée sa damnation, c'est parce que Prométhée, quand les êtres humains, les mortels et les immortels se réunissaient pour faire leur banquet, ils sacrifiaient quoi? Ils sacrifiaient des animaux. Et Prométhée, la faute de Prométhée, ça a été d'avoir pris la part de Dieu et de l'avoir donnée aux humains et d'avoir masqué les os et les graisses pour les donner aux dieux. Donc les dieux en colère se sont fâchés contre lui. Et là, c'est pour ça qu'il a été cloué à son rocher de damnation. Et Prométhée, pour se racheter vis-à-vis des humains, en tout cas, il était vraiment un ami des humains. Il aimait beaucoup les humains, il nous a donné le feu. Parce que bon, quand les dieux se sont détournés de nous, on dit « Ok, débrouillez-vous sans nous ». Et il y a toujours cette interaction-là, ce rapport à Dieu. Alors, si au moment où on met Dieu de côté, cette vision théocentrique, et que autre chose se met en place, ça va appeler l'anthropocentrisme. Donc on va tout centrer sur l'homme. Donc ça veut dire le critère cognitif, que l'homme possède à l'exclusion des animaux. On ne veut plus attenter à la divinité ou à l'immortalité, c'est fini. Nous, maintenant, on est sur Terre, on a une vision presque immanente, et à partir de là, va se poser la question de qui est-ce qu'on inclut, qui est-ce qu'on exclut. Et dans quel, selon quelle modalité on peut aujourd'hui éthiquement élargir la communauté morale, c'est-à-dire la communauté de ce qui a une valeur éthique, ce qui est digne de considération. Est-ce qu'on peut aller au-delà de l'humanité pour adresser les problèmes environnementaux que tu mentionnais tout à l'heure par rapport à la COP 30 au Brésil? Est-ce que l'être humain devrait faire rentrer la nature, les animaux et dans des considérations éthiques plus fortes et plus exigeantes pour changer notre rapport aux entités naturelles? Ça, c'est des postures ou des positions éthiques qui sont développées, par exemple, en philosophie morale, comme en éthique animale ou en éthique environnementale. Mais de façon générale, les éthiques qui vont être anthropocentrées, qui vont être très centrées sur l'homme, vont garder une valeur uniquement aux agents humains. Donc les êtres humains sont les seuls agents moraux. Et les éthiques non anthropocentrées, celles que je mentionnais tout à l'heure, le pathocentrisme, le biocentrisme ou l'écocentrisme, vont dire que non, il faudrait peut-être élargir la communauté en accordant une valeur intrinsèque à des entités humaines, non humaines, que ce soit des animaux, des végétaux, des écosystèmes, ou alors des systèmes d'intelligence artificielle ou des robots. Donc vous voyez, tout ça, aujourd'hui, se cristallise autour de quelle est la place de l'homme, l'anthropocentrisme, et si on met l'anthropocentrisme de côté, qu'est-ce que nous pouvons mettre à la place? Et c'est vraiment un enjeu fondamental pour savoir comment l'homme se distingue de ce qui n'est pas lui aujourd'hui. Ben, l'homme, je dis l'homme par défaut, mais l'humain, cette faute est due à la langue française qui va mettre l'homme, là aussi c'est une faute, parce que là, pour revenir à la question des femmes, au moment de la Révolution française, quand les révolutionnaires français proclament la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, les femmes ne sont pas dupes. Elle se rend compte que l'homme de la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'homme masculin, c'est le masculin. Et Olympe de Gouges va proposer la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et aujourd'hui, c'est sous ce même modèle-là que tu vas voir que, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à la loi qui propose, au projet de loi qui propose de donner le statut de personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent, ça présente les mêmes caractéristiques qu'un être humain. Il faut préserver le Saint-Laurent dans son droit de continuer de vie et de conserver ses cycles naturels. Ça ressemble étrangement à l'anthropocentrisme. Bon, pour le coup, anthropomorphisme. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement nouvelles, pertinentes, et des considérations comme ça sur la prééminence de l'homme aujourd'hui est de plus en plus battue en brèche pour développer d'autres considérations qui nous permettent de faire entrer ces entités-là dans une considération morale plus élevée. Mais en même temps, il y a une focalisation sur le droit. Je pense que toi et moi, on en parlait. Le droit subjectif, individualiste, bourgeois, pour être un peu critique. Est-ce que c'est le bon outil? Ça, on n'a pas encore tranché. Il y en a qui ne sont pas persuadés que c'est par là que ça passe. Mais il y en a qui pensent qu'il y a une bonne façon d'être anthropocentré. Tu vois, il y a des postures éthiques aujourd'hui, notamment Norton, qui va défendre cette posture-là en disant non, l'anthropocentrisme en soi n'est pas une mauvaise chose. Il y a un anthropocentrisme légitime. Les humains ont le droit de s'aimer. Et d'ailleurs, même peut-être qu'en étant anthropocentriste, ça nous amène par voie conséquentialiste à long terme à préserver le reste du vivant. Donc, il faut préserver l'anthropocentrisme. Ça, c'est une solution. Et cette conception-là, elle est, en philosophie, on va dire qu'elle est conséquentialiste, parce que dans le sens que bah, les êtres humains ne sont pas naïfs, ils savent très bien que s'ils détruisent le climat totalement, bah, il n'y aura plus d'humains. Donc, même si à court terme, ils se comportent comme des destructeurs, ils devront s'amender nécessairement parce qu'il en va de leur survie. Donc, c'est par amour de leur autopréservation, finalement, qui vont préserver la nature. Bon, ça, je sais pas, selon la conviction de quelqu'un, si vous êtes prêt à mettre une pièce sur cette prédiction, Je ne sais pas. Il y en a qui vont dire non, 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 il faudrait plutôt décaler vers des considérations comme l'écocentrisme. C'est ce que vous allez voir avec les gens qui travaillent sur la pensée de Lovecraft, sur l'hypothèse Gaïa.
C'est Love la Terre. C'est voilà. James Lovelock.
Prendre la Terre comme un oui. tout oui. Et réfléchir à l'écocentrisme, à l'écologie profonde avec Ness. Ou sinon Aldo Leopold avec l'éthique de la Terre, ce genre de considérations-là, qui vont essayer d'avoir une exigence plus forte, et en disant non, il faut laisser de côté cet anthropocentrisme qui se veut pragmatique et qui, en fait, n'atteindra pas l'objectif de préserver à la fois l'humain et le reste vivant.
C'est une question complexe.
Tout à fait.
Très complexe au niveau philosophique, mais c'est pour ça qu'on ne fera pas seulement une émission, mais on va faire toute la saison. C'est une réflexion qu'on doit avoir. Écoute, on prend une dernière pause musicale, puis après ça, ben, on va être rendu à l'étape de conclure l'émission.
Ça marche.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new and fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
C'était Nina Simone, I'm Feeling Good. Alors, on est de retour avec Rajul Muhammadou. En passant, pour ceux que ça intéresse, là, si vous voulez poursuivre la réflexion, il y a son livre qui est quand même... C'est du dance, on pourrait dire. Là, son livre, L'accidentité, mais qui toute une réflexion sur l'identité est vraiment intéressante, que je vous recommande, que j'ai lu. Alors, il nous reste quelques minutes, Rajul, pour conclure, voir à partir de cette réflexion-là, où est-ce qu'on s'en va là, exactement?
Ben, moi, je proposerais de faire une excursion vers les autochtones que tu mentionnais tout à l'heure, parce que Personnellement, je ne crois pas en l'argument selon lequel l'anthropocentrisme serait universel. L'anthropocentrisme tel qu'il s'est formalisé, comme je disais, je fais la référence à Descartes, c'est très occidental, c'est très européen, très civilisation occidentale. Il y a d'autres pensées morales de l'être humain qui ne considèrent pas que les animaux non humains, les végétaux sont de simples objets, des éléments de décor qui sont dépourvus de personnalité. Tout au contraire, des animaux vont ressentir la peur, la douleur, et éprouver des émotions qui sont semblables aux nôtres si on s'en tient à des considérations de type cognitif. De plus, il va exister chez les autochtones, les sociétés ou les cosmogonies non occidentales et non modernes dans le monde qui vont concevoir les humains, les animaux non humains comme des personnes dotées des mêmes attributs, d'une âme, et d'une conscience réflexive, d'une intentionnalité ou d'une vie affective ou de capacité d'observer des préceptes éthiques qui sont similaires aux animaux humains que nous sommes. Donc, l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiro de Castro, que j'aime beaucoup, qui est un spécialiste, qui est l'un des grands théoriciens de l'animisme, qui a rétéorisé l'animisme aujourd'hui, il va considérer par exemple que chez les autochtones du Brésil, en Amazonie, là-bas, de façon générale, ils vont considérer que tout peut être humain. Tout peut être humain. Parce que chez eux, rien n'est humain de façon claire et distincte. Donc vous voyez, l'humanité est une forme de potentialité qu'on peut actualiser et qui n'est pas exclusive aux humains. Donc pour eux, ils inversent la proposition de tout à l'heure, celle avec laquelle j'ai commencé, le zoon politikon, l'homme est un animal humain. En fait, ils vont partir de l'idée que tout est humain. Et là, ça change tout. Peut-être que c'est là-bas qu'il faut creuser et trouver les réponses les plus adaptées à cette crise climatique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, à la crise climatique et environnementale aujourd'hui, de regarder dans d'autres civilisations, dans d'autres façons de concevoir le monde, d'autres conceptions du monde, de trouver des anticorps et des antidotes à tout ce que l'anthropocentrisme, le naturalisme, le capitalisme ont déchaîné en termes de destruction de la planète.
Si vous voulez lire un texte qui est tout simple sur comment un peu percevoir comment les Premières Nations vivaient au Québec, le texte de Michel Jean, Cocoon, mm-hmm. Et c'est magnifique, c'est tout simple, mais ce qui est frappant, c'est que on voit comment c'était dur, là, vivre en nature, mais il n'y avait jamais cette perception que la nature est hostile. La vie est dure, mais la nature est bienveillante parce qu'il n'y a pas de séparation,
Les travaux de Philippe Descola, par exemple, qui a travaillé sur les Achua, vont montrer, par exemple, que chez les autochtones qui habitent au Brésil, la séparation entre ce qui est le domestique et le sauvage n'existe même pas. Et parfois, des femmes Achua vont considérer que des animaux qu'ils ont trouvés dans la forêt, qui ont perdu leur maman, ils vont les adopter, les allaiter comme leurs enfants. Ils vont considérer que les plantes sont leurs enfants et les traiter comme leurs enfants. Et de la même manière que le chasseur qui va aller chasser le caribou, quand il va chasser le caribou, il ne va pas pour aller tuer le caribou pour le plaisir. C'est juste, il rentre en négociation avec les esprits protecteurs des caribous qui va finalement décider de lui concéder, de lui donner un caribou pour sa survie. Et à partir de là, il va tuer le caribou en faisant les sacrifices, en observant les rituels qui vont avec. Donc ça, c'est une invitation à la sobriété, c'est une invitation à une vie frugale. Mmh. C'est peut-être ça qu'il faudrait réfléchir, c'est-à-dire le capitalisme qui est l'élément central. C'est l'éléphant dans la pièce qu'il faut critiquer par rapport à tout ça.
Mais malheureusement, Rajul, l'émission est terminée. Je te remercie, c'était vraiment intéressant. On a fait un bon bout de chemin dans notre réflexion sur l'identité. Puis probablement qu'on va te réinviter parce que ta réflexion est très pertinente pour nous. Là.
Merci.
Alors, en tout cas, je répète, pour ceux que ça intéresse, notre invité, Rajul Mouhamadou, a publié un livre qui s'appelle « L'accidentité », que vous pouvez trouver en librairie, qui est vraiment intéressant, ça. Une réflexion assez sophistiquée sur l'identité. Puis, on va poursuivre notre réflexion tout le long de la saison. Alors, merci. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
Radio Urbaine.
Au cours de la dernière année, le gouvernement a fait plusieurs propositions au syndicat de médecins pour améliorer l'accès aux soins de santé. Malheureusement, toutes ces propositions ont été refusées. Devant l'urgence d'agir, le gouvernement a adopté une loi qui permettra à plus de Québécois d'avoir accès à un médecin de famille
notamment le soir et la fin de semaine, et de pouvoir consulter un médecin spécialiste plus rapidement, par exemple pour obtenir une chirurgie. Parce que notre priorité, c'est l'intérêt des patients. Un message du gouvernement du Québec.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouffe. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
CKIA, le journal.
Bonjour, ici Rémi Giguère.